Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle comme d'habitude, mais cette fois-ci en direct de Grimens en Suisse. Voilà, encore un changement de localisation, vous l'aurez compris, je voyage beaucoup en ce moment. Et encore, c'est pas fini, vous allez voir les destinations suivantes. Je crois que je vais vous laisser la surprise à chaque épisode de voir où je me trouve. Et cette semaine, pour cet épisode 19, je suis malheureusement tout seul. Mon acolyte Plume n'aura pas pu me rejoindre puisqu'il se dirige lui-même vers la Suisse. Donc voilà, des fois le voyage ça empêche aussi d'enregistrer des épisodes. Ça n'est pas mon cas cette semaine. Vous l'aurez compris puisque nous sommes ensemble. Et cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière, l'actualité est un peu plus chargée. On va dire que les choses ont redémarré, enfin l'année 2019 a redémarré sur les chapeaux de roue. Mais avant d'attaquer l'actualité de cet épisode, et puisque nous n'aurons pas d'édito, plongeons directement dans le courrier des auditeurs puisque nous avons reçu une question via le blog. Alors, pas en commentaire du blog, mais dans le formulaire de contact. Je vous invite toujours à laisser vos questions aussi dans les commentaires du blog, ça permet à tout le monde de les voir. Ici, c'est Antoine qui nous dit « Merci Sébastien et Plume pour ces podcasts très intéressants. Continuez comme ça, on va essayer. Je suis actuellement en voyage autour du monde, tiens, encore un autre, et ce podcast me permet de rester informé de l'actualité crypto. » Une question concernant les dApps, donc c'est Decentralized Applications. J'ai remarqué que les dApps EOS avaient beaucoup plus d'utilisateurs quotidiens que les dApps Ethereum. Et pour ça, il s'est référé au site dappradar.com. Par exemple, la première sur EOS a 10 000 utilisateurs quotidiens contre seulement 650 sur la première Ethereum. Est-ce que vous pensez que cela veut dire que pour des applications moins importantes comme des jeux, EOS est plus avantageux ou prometteur qu'Ethereum? Pensez-vous que cela pourrait être compensé par le sharding, Casper ou des sidechain DPoS comme Loom? Merci. PS, j'ai hâte de voir la nouvelle version de votre cours Udemy. Ça arrive. Alors, décortiquons un petit peu la question. D'abord, pour ce qui est de la comparaison entre les dApps Ethereum, leur succès, leur nombre d'utilisateurs, versus les dApps EOS. Alors déjà, c'est intéressant de voir que sur site d'Appradar, effectivement, on a des dApps de toutes les blockchains et non plus seulement d'Ethereum, puisque pendant longtemps, Ethereum était la seule qui permettait de développer ce genre d'application. Maintenant, évidemment, il y a EOS et il y en a d'autres. Et de fait, il y a des applications EOS qui ont beaucoup de succès aussi. Pour autant, est-ce qu'on peut déjà en tirer des chiffres, des données qui sont statistiquement significatives? Je ne pense pas personnellement, je pense qu'il n'y a pas encore assez d'applications d'une part, qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs d'autre part, hein, quand on en ajoute l'ensemble, enfin, c'est pas non plus des ordres de magnitude, enfin, des différences d'ordre de magnitude absolument terribles, et je pense qu'on est tout simplement encore dans un marché de niche, il est encore trop tôt pour tirer une quelconque conclusion. Le jour où on parlera en millions d'utilisateurs et au-delà, et où on pourra comparer ça entre plusieurs dizaines d'applications, ce sera plus significatif. Donc j'ai un peu d'hésitation à considérer ça comme ayant une quelconque valeur statistique. De fait, il se trouve que le EOS a un avantage de vitesse, et donc pour certaines applications, ça va plus vite, et puis pour certaines applications aussi, on se fout un petit peu de la décentralisation. Du côté d'EOS, ça tombe bien, puisque comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai un gros doute sur... C'est pas seulement moi qui ai un doute, je veux dire, ça fait pas partie de leurs objectifs primaires, même aux développeurs. Donc voilà, il se trouve que de ce point de vue-là, ça avantage certaines applications. Alors du coup, effectivement, la question qui vient après est aussi intéressante, c'est que de fait, comme je le disais sur Ethereum, la scalabilité du réseau fait que ça limite le genre d'application qu'on peut déployer et utiliser de manière pratique dessus. et le sharding ou encore le proof of stake qui vont arriver à un moment donné sur Ethereum pour augmenter sa scalabilité vont forcément favoriser l'émergence de plus d'applications et d'applications plus intéressantes aussi. Par contre, voilà, je continue, allez, c'est mon opinion et vous la connaissez déjà si vous avez écouté les épisodes précédents du Proof of Cast, je ne crois définitivement pas au DPoS. Donc je rappelle, hein, le DPoS, c'est le Delegated Proof of Stake. D'ailleurs, que ce soit celui d'EOS ou de Lumix, hein, c'est l'autre, c'est la sidechain Ethereum qu'il évoquait. Dans les deux cas, on fonctionne avec du DPoS. Et voilà. Et en gros, le principe du DPoS, pour rappel, ça consiste à réserver le consensus, donc réserver la validation, la création des blocs, à un petit sous-ensemble de nœuds d'un réseau pour accélérer la validation. Forcément, quand on met plus tout le monde en compétition, mais uniquement un tout petit nombre, eh ben, ça va plus vite. Maintenant, ça a un impact non négligeable sur la décentralisation, puisque ces sous-ensembles de nœuds, d'une certaine manière, on est obligé de lui faire confiance a priori. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle vraiment une solution de facilité. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les applications qu'on veut déployer dessus, on doit se concentrer sur les solutions de scalabilité qui ne compromettent pas la décentralisation. Parce qu'encore une fois, c'est l'objectif de base de la blockchain. Si on veut fonctionner de manière centralisée, on n'a pas besoin d'une blockchain et on peut utiliser des bons vieux systèmes à l'ancienne qui sont, croyez-moi, encore beaucoup plus rapide que même un EOS ou un Lumix. Donc, encore une fois, je vous invite à vous faire votre propre opinion, mais en tout cas, ça, c'est la mienne. Et alors, oui, non, juste, je voulais insister encore une fois sur pourquoi j'insiste autant sur la décentralisation, que ce soit dans ce podcast ou dans toutes les opinions que je mets en avant, c'est que la décentralisation, elle est précieuse et elle est vraiment trop précieuse. Et ce qu'on peut déjà anticiper, c'est que au fur et à mesure que les réseaux vont gagner en scalabilité, notamment Ethereum, etc., ils vont aussi gagner en popularité, en accessibilité, en utilisation d'une certaine manière, donc en visibilité. Et vous pouvez parier que à partir du moment où ça va arriver, bah forcément la pression de ce que j'appelle l'ancien monde, c'est-à-dire le monde centralisé, va augmenter, va essayer de contrôler ces blockchains. Ça se produit déjà dans une certaine mesure, mais je pense que ça va s'accroître avec la popularité, on va dire, de certaines plateformes de blockchain. Et du coup, à ce moment-là, on sera bien content d'avoir des plateformes vraiment décentralisées pour résister à cette pression et pour conserver le pouvoir sur ces trucs-là par rapport à d'autres systèmes avec qui ça va rentrer en concurrence et qui vont tout faire pour protéger leur pré carré. Donc, pour moi, l'estate channel, oui. Toutes les autres solutions de scalabilité qui, d'une manière ou d'une autre, protègent aussi la décentralisation, oui. Le DPoS, non. Voilà. Et en gros, si tu veux de la vitesse, bah, fais du centralisé, c'est ce qui va le plus vite. Voilà, ça c'est mon opinion. Après, encore une fois, je vous laisse chacun vous faire la vôtre. Et puis je vous invite à aller voir le site lumix.io qui explique un petit peu comment fonctionne cette sidechain sur laquelle il y a déjà pas mal de jeux Ethereum qui fonctionnent d'ailleurs. Voilà, ça c'était pour le courrier des auditeurs. Encore une fois, je vous invite, hein, si vous avez des questions, des remarques, des opinions, des choses qui sont pas claires dans les épisodes du Proof of Cast, je vous invite à laisser vos commentaires sur les épisodes, enfin sur les posts du blog sur proofofcast.com ou aussi à les laisser sur notre compte Twitter Proof of Cast ou notre page Facebook Proof of Cast aussi. On sera heureux d'y répondre de la manière la plus didactique et claire possible. Ce podcast est aussi le vôtre, je vous le rappelle. Passons maintenant à l'actualité. Une actualité, comme je le disais, assez chargée. On va parler de Constantinople, le hard fork d'Ethereum. On va parler d'Ethereum classique. Vous allez voir pourquoi. Ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité vont comprendre. Mais ça, il y a eu des choses avec beaucoup d'impact. On va parler du Ledger Nano. On va parler aussi de Mimblewimble. Je crois qu'on avait eu une question dans un épisode il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui nous demandait ce qu'on pensait de l'avenir de ce truc-là. J'avoue qu'à l'époque, voilà, je m'étais pas beaucoup renseigné sur le truc, mais là il y a une actualité qui y est liée, donc je me suis renseigné un petit peu plus avant. On va parler aussi de la Chine et on va finir avec un petit clin d'œil à des prédictions qu'on avait fait par le passé. Commençons tout de suite avec Constantinople et son retardement. Alors, rappelons que Constantinople, c'est un hard fork donc de la blockchain Ethereum, autrement dit une mise à jour de certaines de ses fonctionnalités, de son code, et on appelle ça un hard fork par opposition à un soft fork, puisque cette mise à jour va nécessiter une installation du nouveau logiciel sur l'ensemble des nœuds, notamment l'ensemble des mineurs, pour éviter un split. Donc il y a un risque ici que la chaîne se sépare en deux. En tout cas, un risque théorique. Dans la pratique, elle n'est pas très, il n'y a pas vraiment de débat très puissant qui pourrait laisser à penser que certains mineurs vont partir de leur côté, hein, contrairement à ce qui s'est passé par exemple après The DAO en 2016. Ici, là, on est sur quelque chose d'assez consensuel. C'est la deuxième étape d'une upgrade plus large qui s'appelle Metropolis. Donc on avait déjà eu Byzantium en 2017. On avait donc Constantinople qui à la base était prévu pour octobre 2018 et qui avait dû être retardé suite à suite à des bugs, en gros, qui avaient été notés lors des tests sur le réseau de tests Rinkeby. Et ici, évidemment, ça n'avait pas pu être fait tout de suite en novembre, puisqu'il y avait eu la conférence des développeurs, si vous vous souvenez, qui avait un petit peu monopolisé pas mal d'énergie. Du coup, on avait laissé passer les fêtes et on s'était dit, on va relancer ça en janvier 2019. Pour rappel, et donc c'est pour ça que ça revient dans l'actualité cette semaine. Pour rappel, dans ce hard fork, on a 5 EIP. Je rappelle, un EIP, c'est un Ethereum Improvement Proposal. Donc on a 5, en gros, améliorations. D'une part, on a l'optimisation de certains opérateurs élémentaires dans la machine virtuelle Ethereum. On a des fonctionnalités qui vont permettre l'implémentation des state channels dans Ethereum. On a déjà parlé des state channels, hein, donc c'est cette idée qu'on peut faire sortir certaines transactions de la blockchain tout en gardant un même niveau de sécurité et de décentralisation. C'est en gros le principe aussi du Lightning Network sur Bitcoin. On a troisième amélioration, c'est l'optimisation de l'exécution de certains smart contracts. Là encore, je rentre pas dans les détails techniques, on les avait évoqués un petit peu en octobre la première fois qu'on avait parlé de ce hard fork, mais en gros c'est ça que ça fait. Et puis on avait certaines améliorations pour diminuer la consommation de gaz et donc le coût d'exécution de certains smart contracts. Et bien sûr, comme à chaque hard fork, on se pose la question, est-ce que le proof of stake est prêt? Et si ce n'est pas le cas, eh ben il faut se poser la question de ce qu'on fait avec la bombe de difficulté, ce mécanisme qui est conçu pour en gros forcer les gens à passer un jour au proof of stake quand il sera prêt. Il n'est pas prêt, il faut le repousser. Donc, ce coup-ci, on va le repousser de 18 mois. Et du coup, par effet de bord, on est obligé, plus ou moins, de diminuer aussi la prime de minage, qui jusqu'à maintenant était à 3 Ethers par bloc, et qui va passer à 2 Ethers par bloc. Donc ça, c'est un petit peu l'ensemble des modifications qui étaient prévues dans ce hard fork Constantinople. Au passage, vous noterez l'absence d'ailleurs du fameux mécanisme de résistance aux ASICs qui n'était pas prévu à la base du tout dans Constantinople, que certains développeurs ont tenté de pousser pour le faire passer dans Constantinople. C'est ce qu'on appelle le PROC-POW qui doit permettre justement d'exclure les ASICs, donc ces puces dédiées du mécanisme de minage sur Ethereum. Et finalement, a priori, ça ne sera pas dans Constantinople. Donc, comme je le disais, à l'origine, la mise en œuvre de ce hard fork sur le mainnet était prévue pour octobre 2018. Suite à des bugs notés sur le réseau de test, on avait décalé ça à mi-janvier. Donc là, elle était prévue ensuite pour le 16 janvier 2019. Mais mardi 15 janvier, on a des messages sur les réseaux Twitter, etc., qui nous disent en gros, comme vous savez, comme quand les lancements de fusées sont annulés, ils disent « hold », ben, c'est un peu ça qui s'est passé. Tout le monde s'arrête, branle-bas de combat, tout le monde sur le pont. Il se trouve que une société d'audit de smart contract qui s'appelle Chain Security a trouvé un bug potentiellement grave dans l'implémentation d'un des EIP, l'EIP 1283, celui qui concernait l'optimisation du coût d'exécution des smart contracts. En l'occurrence, c'est un bug assez sérieux puisque c'est ce qu'on appelle un bug de un re-entrancy bug, un bug de type réentrant, c'est-à-dire du même type que celui qui avait été exploité par l'attaque de The DAO en 2016. Et donc, qui pourrait permettre, s'il est utilisé, s'il est activé, à des attaquants, en gros, de voler les fonds, de voler des fonds de certains utilisateurs d'un smart contract. Alors, je vous ai mis le lien vers le post Medium de Chain Security qui explique en détail comment ça fonctionne, comment le bug se présente et même qui donne un exemple de code qui permettrait de l'exploiter. Donc vous verrez que c'est quand même assez sérieux. Si ça vous intéresse et que vous avez envie de lire du code, c'est pas mal foutu. Et en conséquence de ça, évidemment, les développeurs ont décidé de retarder le hard fork. Alors, une nouvelle date doit être décidée aujourd'hui même. À l'heure où j'enregistre, il est 18h et nous sommes le 18 janvier. Donc normalement, la réunion a eu lieu cet après-midi. J'ai tenté d'y assister vite fait pour voir si les décisions étaient claires, mais la discussion était assez animée, donc j'ai pas eu la réponse tout de suite. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on doit décider ce qu'on fait avec Constantinople. La solution au bug qui a été remarqué serait probablement trop longue à mettre en œuvre, donc on peut plus et on peut plus vraiment se permettre de retarder beaucoup la release de Constantinople parce qu'on a cette bombe de difficultés qui nous regarde droit dans les yeux. Donc le scénario le plus probable, c'est que Constantinople va être déployé incessamment sous peu sans le IP1283, mais du coup ça veut dire qu'il faut qu'on reteste tout, puisque si vous enlevez une seule des améliorations, on peut pas présager de l'impact que ça aura sur les autres, donc il faut refaire une batterie de test. Donc ça sera probablement pas pour tout de suite que Constantinople sera réalisé, même sans cette EIP. Et puis il y aura du coup très probablement un nouveau hard fork après Constantinople, mais avant celui, le prochain qui était prévu, pour quand même implémenter correctement cette EIP avec une solution au bug qui a été remontée par Chain Security. Alors, au passage, n'hésitez pas à suivre notre Twitter et notre page Facebook. On postera un petit message pour vous tenir au courant de ce qui se décide, et notamment du nouveau numéro de bloc d'activation de Constantinople. En attendant, vous pouvez déjà bookmarker les quelques liens qu'on vous a mis dans le post de l'épisode sur proofofcast.com pour avoir une estimation de la date d'application du hard fork. Parce que je vous rappelle que en général, à chaque fois, quand on décide d'un hard fork, quand on planifie un hard fork, on décide du numéro de bloc à partir duquel il sera activé, mais c'est pas évident d'établir une date précise, de prédire à l'avance à quelle date et heure un bloc précis sera miné. Et donc, on peut faire des estimations sur base du temps moyen de minage des blocs dans le passé, etc. Et il y a des sites qui permettent de faire ces estimations-là. Donc, tous les liens, encore une fois, sont dans le blog post de cet épisode. Et aussi, on vous a mis un petit lien vers un site qui s'appelle ForkMon, qui permet de monitorer la santé du hard fork, du réseau, en fait, une fois que le hard fork aura été déployé. Ça vous permet de voir est-ce qu'on est face à un split qui a tendance à durer, comment évolue le hash rate du réseau, etc., etc. Attention, cela dit, cet outil, il est basé uniquement sur Get et sur Parity, qui sont les deux plus gros logiciels Ethereum, mais qui ne représentent quand même que 70% du réseau. Donc c'est pas fiable à 100%, mais ça vous donne quand même déjà une très bonne idée. Et alors si vous voulez vraiment geeker joyeusement, on vous a mis aussi le lien de la chaîne YouTube de la Fondation Ethereum où ils devraient faire un live avec certains des développeurs les plus importants pour regarder tous ensemble le hard fork se produire et surveiller ce qui se passe sur le réseau. Donc ça, c'est vraiment pour les plus hardcore d'entre vous. Et donc voilà, Constantinople, c'est pas pour tout de suite, et décidément cette release, elle nous aura donné du fil à retordre. Espérons qu'on y arrive assez rapidement pour passer à la suite, parce que Serenity est urgente aussi. Ça, c'est le hard fork qui devrait venir plus tard. Le prochain gros hard fork, on va dire. Maintenant, on va parler d'une autre blockchain qui est issue de Ethereum, qui s'appelle Ethereum Classic. Alors, petit rappel des faits concernant Ethereum Classic. Il s'agit du produit d'un split dans la blockchain Ethereum qui s'est produit à l'été 2016. Vous vous souvenez peut-être, après l'attaque du smart contract The DAO, qui avait permis à un hacker de siphonner en gros 50 millions de dollars en Ether sur une levée de fonds de à peu près 150 millions de dollars, ça avait entraîné une scission dans la communauté quand il s'est agi de décider si le réseau, en gros, si les développeurs devaient intervenir exceptionnellement et faire une entorse à l'immutabilité de la blockchain histoire d'annuler les transactions de l'attaquant, ou au contraire, dans une approche un peu plus jusqu'au boutiste, de ne rien toucher, quitte à laisser l'attaquant s'en aller avec ce qui représentait à l'époque 5% de l'Ether en circulation. À l'époque, la majorité de la communauté, comme vous le savez peut-être, avait décidé d'intervenir et d'activer un hard fork pour annuler les transactions qu'ils avaient jugées frauduleuses et in fine rendre leur argent à tous ceux qui avaient investi dans ce fonds d'investissement de The DAO. Mais une minorité avait quand même jugé cette modification abusive et avait continué à miner sur l'ancien logiciel Ethereum qui du coup était devenu Ethereum classique ou ETC. En tout cas, c'est le sigle de la crypto-monnaie sous-jacente à Ethereum classique. Et depuis, Ethereum classique, un peu contre toute attente, je dois bien dire, a survécu avec du développement actif en plus, qui leur a notamment permis d'annuler définitivement la bombe de difficulté, rejetant de fait la possibilité d'un passage futur au Proof of Stake. Donc pour eux, le Proof of Stake, il n'en est pas question. Et donc aujourd'hui, le résultat de tout ça, c'est que vous avez deux réseaux indépendants. Vous avez d'une part Ethereum avec sa propre crypto-monnaie et d'autre part Ethereum classique avec, comme je disais, ETC qui a son propre cours. Donc ces deux blockchains, elles partagent une partie de leur histoire. Le début de la blockchain est le même, puis à un moment donné, elles ont splitté et aujourd'hui, elles utilisent, comme je le disais, deux crypto-monnaies complètement différentes. Et d'ailleurs, beaucoup de places de marché, y compris Coinbase, listent les deux crypto-monnaies, donc vous permettent d'acheter et de vendre ces deux crypto-monnaies. Alors, ce qui s'est passé, et la raison pour laquelle on en parle dans l'actualité de cet épisode, c'est que le 7 janvier dernier, donc finalement 2 jours après la diffusion de l'épisode précédent du podcast, Coinbase a décidé de suspendre toutes les transactions Ethereum classique après avoir noté ce qu'on appelle une réorganisation de chaîne, c'est-à-dire que en gros vous aviez une chaîne qui était majoritaire et puis tout d'un coup toute la tête de la chaîne, donc un paquet de blocs, ont été remplacés par une autre chaîne qui est apparue un petit peu de manière inattendue et qui clairement laissait soupçonner une attaque à 51% puisque c'est un petit peu le principe. Alors rappelons juste justement, ce qu'est le principe d'une attaque à 51%. L'idée, c'est que si vous avez une organisation qui s'empare de plus de la moitié de la puissance de calcul de la blockchain, alors ça concerne uniquement les blockchains qui utilisent des algorithmes de consensus de type preuve de travail, du proof of work, et cette puissance de calcul, c'est ce qu'on appelle le hash rate. Donc si vous avez une organisation qui s'empare de plus de la moitié de ce hash rate du réseau, elle a la possibilité de prendre de vitesse du coup le reste du réseau dans le minage des blocs. Et de ce fait, elle peut faire ce qu'on appelle des doubles dépenses. C'est-à-dire faire une transaction pour, par exemple, vendre de l'Ethereum classique contre des dollars. Puis, une fois qu'ils ont récupéré leurs dollars auprès de la place de marché, ils réécrivent les derniers blocs pour remplacer la transaction d'avant par une autre qui envoie les mêmes Ethereum classiques vers un autre compte à eux. En gros, ils viennent de voler des dollars à une place de marché en leur faisant croire qu'ils leur avaient envoyé de l'Ethereum classique, mais en fait, non. Évidemment, comme vous vous en doutez, acquérir plus de la moitié du hash rate d'un réseau, ça peut coûter potentiellement assez cher. Et ça coûte d'autant plus cher qu'il y a beaucoup de hash rate sur le réseau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de puissance de calcul qui est mise à disposition du réseau. Par contre, sur un petit réseau avec assez peu de hash rate, comme c'est le cas pour Ethereum classique, mais en même temps qu'il y a une monnaie avec une valeur suffisamment intéressante pour être rentable, en gros, ça coûte pas si cher que ça et ça peut potentiellement rapporter gros. En l'occurrence, au moment de l'attaque, choper 51% du hash rate sur Ethereum classique, ça coûtait de l'ordre de 5 000 $ par heure. C'est pas énorme. Par contre, la monnaie en elle-même, l'Ethereum classique, y valait à peu près 4,75 € par ETC. Donc tout ça, a ouvert un petit peu la voie à cette attaque 51%. Au passage, je vous mets en lien un truc qui est super intéressant, le site crypto51.app qui permet d'estimer le coût horaire d'une attaque à 51% sur différentes blockchains. Et vous allez voir que Ethereum classique était un petit peu en mauvaise posture, surtout quand on le compare à des blockchains beaucoup plus grosses comme Bitcoin ou Ethereum. Alors, quand même, c'est important, on parle souvent de cette attaque à 51% et c'est souvent une critique qu'on fait vis-à-vis de la preuve de travail et de la sécurité du coup des blockchains qu'il utilise. Ça permet pas de tout faire, hein, l'attaque à 51%, ça permet pas de piquer de l'argent à des comptes dont on n'a pas la clé privée, ça permet pas non plus de créer de la monnaie à partir de rien, et surtout, celui qui met en œuvre une telle attaque prend un énorme risque, parce que ces blocs peuvent in fine être refusés par le réseau, hein, à la faveur d'un hard fork, et surtout, la valeur de la monnaie peut fortement baisser en conséquence de la perte de confiance. Donc en gros, c'est se tirer une balle dans le pied parce que on a accumulé un certain nombre de primes de minage en minant beaucoup de blocs, mais d'un autre côté, la rémunération, la valeur en dollars de ces Ethereum classiques en l'occurrence qu'on a pu accumuler, elle a considérablement chuté. Coinbase a d'abord parlé de 88 500 ETC qu'il y aurait été dépensé deux fois dans leur contexte, dans leur compte, en gros, ce qui représentait à l'époque environ 420 000 euros. Ils ont revu cette estimation à la baisse, à la hausse ensuite, et on parle aujourd'hui de à peu près 1 million de dollars, donc ça représente à peu près ça représente en tout cas à peu près 1 million de dollars en tout, qui aurait été piqué aussi bien au niveau de Coinbase que d'autres places de marché. Je crois que les dernières estimations, c'était 220 000 ETC, soit environ 1 million d'euros. Évidemment, vous l'aurez compris, les premières victimes dans ces cas de figure, ce sont essentiellement les places de marché, comme Coinbase. Mais d'un autre côté, comme ces places de marché sont obligées d'identifier tous les utilisateurs, donc tous les porteurs d'adresses, surtout ceux qu'elles autorisent à faire des grosses transactions, bon, ça devrait pas être trop compliqué pour eux d'identifier les coupables au final. En tout cas, c'est ce que certains espèrent, puisque la firme qui a remarqué l'attaque au départ a demandé aux places de marché de lui filer un coup de main pour identifier les coupables. Alors, évidemment, la sanction des marchés, d'ailleurs, ne s'est pas fait attendre, puisque le prix de l'ETC a vite chuté après cette attaque, entre 7,5 et 10% en 24 heures environ. Et d'un autre côté, évidemment, vous vous en doutez, certains développeurs un petit peu défensifs continuaient à douter à l'époque de l'attaque, qu'il s'agissait effectivement d'une attaque à 51%. Pendant un temps, ils ont accusé les fabricants de certains ASICs de mener des tests de nouveaux matériels, qui du coup aurait très rapidement fait augmenter le hash rate d'un seul côté du réseau. Évidemment, les fabricants d'ASICS se sont défendus de toute implication en disant oui, vous êtes gentils, mais nous nos tests on les fait pas sur le réseau de production, on les fait sur les réseaux de test. Et puis quand bien même on ferait un test sur le réseau de production, on va pas faire une seule transaction avec 100 000 dollars dedans. Ça se défend. C'est vrai que c'est difficile à justifier. Donc voilà, il y a un petit peu de, on se renvoie la balle. C'est pas nous les développeurs. Mais c'est pas nous les ASICS, enfin on sait pas trop exactement ce qui se passe. En tout cas, c'est sûr que vous pouvez pas attendre des développeurs d'Ethereum classique qui proposent une annulation des transactions en double spend. C'est pas eux qui vont faire ça, puisque l'ironie du sort veut que ils aient défendu bec et ongle qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'immutabilité. Donc tant pis, il y a eu des transactions en double spend, on les laisse. C'est un petit peu leur philosophie. Donc la conclusion que je vous donne moi, c'est méfiez-vous des splits minoritaires dont le hash rate n'est pas suffisant par rapport à la valeur de la crypto-monnaie, ce qui est bien ce qui se produit ici, et surtout dans un marché en baisse, un marché bearish comme on dit, comme en ce moment, puisque du coup ça rend les attaques à 51% beaucoup plus intéressantes pour ces blockchains. Et encore une fois, avant d'acheter ou de garder certaines crypto-monnaies, suivez le coût d'une attaque 51% sur le site crypto51.app, entre autres. Il y a aussi, je vous mets en lien je vous ai mis en lien sur le podcast, sur le blog, un petit outil offert par Coindesk, un outil intéressant qui permet de noter différentes blockchains selon plusieurs critères, comme la taille du réseau, le prix de la crypto-monnaie sous-jacente, le support des développeurs, l'activité sociale, etc. etc. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble un petit peu sur les différentes blockchains, et surtout de les comparer entre elles et de voir lesquelles ont les meilleures notes sur tous les critères. À noter en épilogue que depuis l'attaque, il y a quand même 100 000 dollars parmi tout ce qui avait été piqué qui ont été rendus par l'attaquant à l'une des places de marché, Gate.io en l'occurrence, sans que les intentions de l'attaquant soient très claires, puisqu'évidemment ils ont essayé de le contacter et ils ont fait chou blanc. Donc bref, Ethereum Classic est en mauvaise posture. Voilà, moi pour moi ça laisse pas présager, ça laisse présager rien de bon sur l'avenir du truc. Affaire à suivre, on verra bien ce qui va se produire à l'avenir. Donc voilà, ça c'était pour l'actualité concernant Ethereum Classic. Alors maintenant, changeons complètement de sujet pour parler des wallets hardware. Alors pour rappel, hein, les wallets hardware, ce sont des petits appareils qui permettent de stocker vos clés privées sur plusieurs blockchains. Et le but de ça, c'est que vous puissiez effectuer des transactions sur ces blockchains sans jamais exposer vos clés privées sur un ordinateur qui est connecté à Internet. Donc c'est un moyen de stockage de vos crypto-monnaies qui est beaucoup plus sécurisé que tous les wallets software que vous pouvez installer sur votre ordinateur, comme Exodus ou MetaMask par exemple, et évidemment encore beaucoup plus sécurisé que les wallets en ligne comme celui offert par Coinbase par exemple. Malheureusement, la contrepartie en général de cette sécurité accrue, c'est une facilité d'utilisation qui diminue un petit peu. Puisque à chaque fois que vous voulez faire des transactions depuis ces wallets hardware, vous devez disposer en plus de votre ordinateur de ce petit device, comme par exemple Ledger Nano S qu'on a déjà évoqué dans des épisodes précédents. Vous devez en plus connecter ce petit device à votre ordinateur avec un câble USB avec lequel vous devez vous balader aussi. Et en plus de ça, l'interface qui vous permet de confirmer les transactions, de les signer en gros, depuis le wallet hardware, c'est juste deux petits boutons pas très très confortables qui vous permettent de naviguer dans les menus du machin et puis en plus d'entrer votre code PIN de manière assez inconfortable, il faut bien le dire. Et alors, pour couronner le tout, évidemment, vous ne pouvez utiliser ce genre de device USB que sur un ordinateur. Vous ne pouvez pas vraiment brancher ce genre de device en USB sur un mobile, et en tout cas, il n'y a rien qui est prévu pour pouvoir les utiliser sur mobile. Eh bien, tout ça est sur le point de changer drastiquement avec l'annonce lors du CES 2019 qui se tenait à Las Vegas, comme d'habitude, par la société Ledger, dont on a parlé, d'une nouvelle version de son Ledger Nano, le Ledger Nano X. Donc, on avait le Ledger Nano S, c'était la version USB, et maintenant on a le Ledger Nano X. Alors, s'il n'est plus USB, vous allez me dire, mais comment se connecte-t-il ? Eh bien, justement, c'est les deux principales nouveautés de cette nouvelle version du wallet hardware de Ledger. D'abord, une connexion possible en Bluetooth, alors Bluetooth sécurisé évidemment, donc encrypté de bout en bout et tout ça, pour éviter tout problème avec les ondes radio qui se baladent. Et en même temps, mise à disposition de versions pour iOS et Android de l'application Ledger Live, qui va donc permettre d'utiliser aussi le wallet hardware depuis un smartphone. Donc c'est quand même des améliorations non négligeables, évidemment tout le monde attendait ça avec impatience. Ça a été annoncé, comme je le disais, lors du CES, et c'est déjà disponible en précommande pour la modique somme de 120 €, c'est-à-dire seulement 20 € de plus que l'ancien prix du Ledger Nano S, qui d'ailleurs entre temps passe à 60 €. Donc maintenant vous pouvez précommander le Ledger Nano X pour 120 € ou commander déjà le Ledger Nano S pour seulement 60 €, donc la version USB. Parmi les autres nouveautés du machin, on peut noter un écran plus grand, donc plus lisible, qui permettra de mieux lire les caractéristiques d'une transaction avant de la signer. On a aussi deux boutons qui sont beaucoup plus gros, donc qui devraient offrir un confort d'utilisation un peu plus grand. Une connectique USB-C, alors vous allez me dire, oui, mais c'est plus USB. Oui, mais bon, il y a quand même besoin de charger la batterie qui se trouve dedans, parce que qui dit Bluetooth dit batterie. Et pour ça, vous pourrez utiliser un câble USB-C. Donc ça, c'est pas mal non plus. Et alors, également, une autre amélioration qui va en séduire plus d'un, c'est une mémoire embarquée plus importante qui devrait lui permettre normalement d'héberger jusqu'à environ une centaine de crypto-monnaies différentes contre seulement une petite vingtaine sur le Ledger Nano S. Et ce, parmi évidemment le catalogue de plus de 1000 crypto-monnaies supportées sur le store, enfin le catalogue de Ledger. Alors, Une chose intéressante quand même qu'on peut noter par rapport à cette annonce, c'est que Ledger a choisi de faire cette annonce lors d'un salon grand public, le CES, donc le Computer and Electronics Show, Consumer Electronics Show, et non pas lors d'un des nombreux salons crypto qui se déroulent toute l'année. Ça, c'est vraiment symptomatique, je trouve, des ambitions de Ledger, donc du fabricant français, qui veut de plus en plus apparaître comme non seulement un fabricant mondial, puisque c'était au CES et pas dans une conférence européenne, et en plus orienté grand public. Hein, c'est le Consumer Electronics Show, c'est pas le Crypto Economics Show. Donc voilà, c'est quand même assez révélateur de l'espoir qu'ils ont que ce device-là va leur permettre de démocratiser l'utilisation des crypto-monnaies, notamment des wallets hardware. Notons d'ailleurs au passage que Ledger, c'est une société française. Alors je dis pas ça pour faire du chauvinisme, parce que effectivement moi aussi je suis français, mais juste pour expliquer que donc comme c'est une société française qui opère depuis une petite ville qui s'appelle Vierzon dans le Cher, que je connais un peu parce que c'est pas très loin de là où mes parents habitent, et ça illustre aussi que tous les succès tech n'ont pas forcément besoin de venir de la Silicon Valley. Des fois aussi ça vient de Vierzon dans le Cher en France. Alors, si vous précommandez le device aujourd'hui, comme je l'ai fait, vous recevrez peut-être en mars une édition limitée Founders Edition avec un logo gravé dessus qui célèbre les 10 ans de Bitcoin. Donc voilà, c'est un petit bonus en plus pour inciter les gens à précommander rapidement. Je rappelle au passage, petit conseil de sécurité, on n'achète pas ce genre de choses en deuxième main, on n'achète pas ça sur eBay ou sur Le Bon Coin ou sur seconde main ou que sais-je. On l'achète directement au fabricant parce qu'il peut avoir été modifié par la personne à qui vous l'achetez, ou simplement il peut ne pas être complètement neuf, ils peuvent avoir récupéré la clé d'initialisation, auquel cas ils auront accès à vos crypto-monnaies, donc faites pas ça. Et aussi, bien sûr, quand vous achetez un device comme ça, un wallet hardware, il faut bien suivre scrupuleusement la procédure d'activation pour sauvegarder votre clé d'initialisation et la mettre à l'abri. Voilà, personnellement je suis assez content de cette évolution, j'ai hâte de tester ça, parce que j'avoue que j'utilise assez peu mon Ledger Nano S, justement à cause du côté un petit peu inconfortable, et il faut se balader avec le câble USB, etc. etc. Donc là, de pouvoir l'utiliser en Bluetooth et en plus sur mobile, ça va être sympa. Et évidemment, je vous ferai un retour concret sur le device dans le Proof of Cast, dès que j'aurai eu l'occasion de l'utiliser, ce qui devrait se produire donc d'ici les environs du mois de mars. Voilà pour l'actualité sur le Ledger Nano X. Alors maintenant, on va parler d'autres crypto-monnaies. On va parler et on va parler aussi d'un nouvel algorithme. On l'évoquait tout à l'heure dans le sommaire, c'est le Mimblewimble. Alors, comme je le disais, on avait eu une question là-dessus juste avant les fêtes, il me semble. J'étais pas rentré vraiment dans le truc en détail à l'époque, mais là c'est revenu dans l'actualité, donc je me suis renseigné un petit peu plus sur le machin, puisqu'il y a deux nouvelles crypto-monnaies qui viennent d'être lancées, on va expliquer pourquoi elles sont plus intéressantes que toutes les autres qui sont lancées régulièrement. Et la raison principale, c'est ce nouvel algorithme de consensus sur lequel elles sont basées, qui s'appelle donc Mimblewimble. Alors c'est tout nouveau, c'est tout chaud, ça sort du four, ça a été présenté dans un papier, dans un white paper d'un gars qui s'appelle Tom Elvis Jedusor en juillet 2016, donc c'est vraiment tout récent, et ça s'attaque à deux facteurs essentiels dans une blockchain qui sont d'une part la scalabilité et d'autre part le secret. Et par voie de conséquence, quand on parle de secret, on parle aussi de fongibilité, vous savez, de cette propriété que doivent avoir les crypto-monnaies, de faire en sorte que chaque unité soit strictement équivalente à n'importe quelle autre unité. Ce qui est facilité quand toutes les transactions sont non traçables. Alors, pour ce qui est justement de la partie secret, comment ça marche? Eh ben, en gros, ça s'appuie sur la technique dite des transactions confidentielles, c'est-à-dire des transactions qu'on peut valider dont on peut prouver qu'elles ne dépensent pas de monnaie déjà dépensée ou de la monnaie créée à partir de rien, sans pour autant connaître les montants de la transaction ni l'identité des participants. Donc si vous avez écouté les épisodes précédents du Proof of Cast, ça doit vaguement vous rappeler un truc, hein, c'est assez similaire à ce que permettent de faire les ZK Snarks, donc les Zero Knowledge Proof, les preuves sans connaissance du Zcash, ou encore les Ring Cities du Monero. Sauf que là, c'est pas du tout le même mécanisme. Autre différence notable dans Mimblewimble, c'est que il y a aucune adresse permanente liée à un compte qui est stockée dans les blocs. Donc les transactions sont vraiment complètement intraçables et par défaut. À chaque transaction, ce qui se passe, c'est qu'il y a juste un échange de clés à usage unique qui se produit en plus de manière désynchronisée, c'est-à-dire que les participants d'une transaction ne sont pas obligés d'être connectés en même temps au réseau. Et du coup, comment ça fonctionne ? Eh ben, c'est que dans chaque bloc, on a une seule gigantesque transaction, au lieu d'avoir toute une liste de transactions qui en plus identifie les gens, là on a une seule gigantesque transaction avec plein d'entrées et plein de sorties, dans laquelle il est vraiment impossible de savoir qui a voulu envoyer combien à qui d'autre au départ. Donc c'est une espèce de transaction jointe, comme on peut aussi parfois les faire sur d'autres blockchains comme Bitcoin, mais ici c'est systématique. Dans le cas de Mimblewimble. Et alors, pour la partie, donc ça c'était pour la partie secret, la partie privacy, comme on dit en anglais, mais pour la partie scalabilité, ce qui se passe, c'est que le contenu de la blockchain est constamment retravaillé pour éliminer d'anciennes transactions devenues inutiles, notamment en agrégeant des transactions intermédiaires ensemble de façon à réduire drastiquement la taille de la blockchain. Donc en gros, la blockchain, elle devient plus rapide à télécharger et aussi à valider. Donc ça, c'est pour la partie théorique de Mimblewimble. Bien sûr, si vous voulez creuser, je vous ai mis le lien vers le white paper original. Vous allez voir, c'est tordant. Enfin, pour ceux qui veulent s'amuser à faire des maths et à comprendre ce qui rentre en compte dans toute la théorie qu'il y a là derrière. Au passage, vous noterez qu'on parle ici d'un algorithme qui ne permet que de simples transactions financières encore. Hein, on ne parle pas encore d'exécution de smart contracts ou de scripting à la Bitcoin, mais uniquement des transferts d'argent d'un point A à un point B. Et alors, la raison, encore une fois, pour laquelle ça rentre dans l'actualité, c'est qu'en ce début janvier, ce sont deux nouvelles crypto-monnaies qui ont été lancées officiellement et qui utilisent ce protocole Mimblewimble. Alors, d'une part, on a la crypto-monnaie qui s'appelle BEAM, B-E-A-M, dont le développement est orchestré par une start-up avec du financement institutionnel et, vous allez voir, ça implique du coup une partie des primes de minage qui sera reversée aux développeurs pendant 5 ans, un peu comme pour Zcash, on en avait déjà parlé. Et de l'autre, vous avez Green, G-R-I-N, rien à voir avec Green, du cinquième élément. Ici, c'est Green, G-R-I-N, donc complètement, qui elle est complètement communautaire, qui est financée uniquement par des donations de la communauté, et du coup, la prime de minage, elle est intégralement reversée aux mineurs. Alors, parlons d'abord de BEAM, puisque c'est elle qui a été lancée en premier, le 3 janvier, ce qui est assez impressionnant, parce que le développement n'avait commencé qu'en mars de 2018, donc ils sont allés très très vite, les pépères. BEAM donc permet à ses utilisateurs, en plus, de choisir quelles informations ils veulent révéler et à qui. Donc ce qui se passe, c'est que le secret est automatique par défaut, mais vous pouvez activer un certain niveau de transparence de manière optionnelle. Donc c'est un peu l'inverse de Zcash, parce que si vous vous souvenez, sur Zcash c'est transparent par défaut et il faut activer explicitement les protections pour avoir des transactions shielded, comme ils appellent ça, donc verrouillées d'une certaine manière. Alors en plus, comme Green d'ailleurs, dans BEAM on a l'implémentation du protocole Dandelion, qui lui est encore plus récent, parce que ça date d'il y a quelques mois seulement, et là l'objectif, c'est obfusquer le trafic de communication entre les nœuds en rendant aléatoire en gros les chemins qui sont pris par les différentes transactions. Alors maintenant, comme je le disais, il y a une différence non négligeable entre BEAM et Green, c'est que BEAM est financé, enfin il est développé par une start-up, par une société qui a des investisseurs, etc. Et donc ils ont prévu, comme pour Zcash, que pendant les 5 premières années, il y a 20% des primes de minage qui seront reversées à la société, donc là en l'occurrence c'est une société israélienne, BEAM, qui gère le développement du logiciel de nœud. Et donc au final, ça ira aux fondateurs, aux investisseurs, et ça constituera aussi les fonds de départ de la fondation BEAM, qui est censée reprendre le développement au bout de ces 5 ans. Autre particularité notable, BEAM est, comme Bitcoin, une monnaie à stock limité à terme, avec une division de la prime de minage par deux par période. J'ai pas trouvé exactement l'info concernant cette périodicité, mais donc au final c'est une monnaie déflationnaire, encore une fois, comme Bitcoin. Alors, comme je le disais, ils se sont lancés le 3 janvier. Malheureusement pour eux, ça a été un petit peu mouvementé puisque le 9 janvier, donc 6 jours seulement après le lancement du mainnet, il y a une faille critique qui a été identifiée dans le logiciel de nœud, dans le logiciel de wallet. Qu'ils ont réparé très rapidement, avant même de la révéler d'ailleurs, évidemment, pour s'assurer qu'elle soit pas exploitée avant. Et alors, les développeurs de BIM ont quand même insisté sur le fait que le problème venait de leur application, de leur implémentation, et pas du tout du protocole Mimblewimble lui-même. Donc ça remet pas en question le protocole sous-jacent. Au passage, ils ont prévu aussi de sortir une nouvelle release dans les jours qui viennent, qui prendra en compte les premiers feedbacks des utilisateurs, et notamment en termes d'utilisabilité. Et allez, il faut éduquer les gens parce que c'est un nouveau protocole avec de nouveaux usages, et donc il y a pas mal de choses à éclaircir. Donc ça, c'était pour ce qui concerne BIM. On parle maintenant de Green, qui elle a été lancée le 15 janvier, et qui, comme je le disais, ici est financée complètement de manière communautaire, par donation. Il n'y a pas eu d'ICO, au passage il n'y en a pas eu non plus sur BIM, hein, mais bon voilà, c'est important de préciser. Dans le cas de Green, il n'y a pas de prime aux développeurs, donc l'intégralité, les 100% des primes de minage sont reversées aux mineurs eux-mêmes. Et autre différence notable, la politique monétaire de Green, elle est aussi différente de celle de BIM, puisque ici le stock n'est pas limité, on a simplement de nouveaux coins qui sont créés à chaque bloc, sans diminution anticipée dans le temps. Donc il n'y a pas de halving et de choses comme ça, ce qui se rapproche un peu de la stratégie d'Ethereum. Alors vous allez me dire, oui mais Ethereum, par exemple dans Constantinople, ils vont passer de 3 Ethers à 2 Ethers. Oui mais c'était pas prévu d'avance, c'est juste un truc qu'on fait pour s'adapter aux conditions changeantes, mais n'empêche que il n'y a pas de halving régulier comme sur Bitcoin, donc ça se rapproche un petit peu de ça. Donc voilà, de nouvelles technologies, de nouvelles blockchains et un nouveau type de protocole de consensus assez intéressant à suivre. Donc ça, c'était pour Mimblewimble. Maintenant, on va parler de la Chine, hein, histoire de finir cet épisode sur une petite note d'humour. Dans la série, il fallait l'oser, celle-là. Revenons sur donc nos amis chinois qui ont toujours le mot pour rire, puisque les autorités chinoises, qui avaient déjà banni les ICO et les places de marché en crypto-monnaie en 2017, veulent maintenant imposer des règles très strictes à toute plateforme qui souhaite interagir avec des blockchains. Ils vont devoir censurer certaines choses au grand public, hein, mais par contre, tout révéler au gouvernement chinois, évidemment. Et bien sûr, ils seront obligés de contrôler l'identité de l'utilisateur de manière à pouvoir identifier les méchants pas beaux. Et ça, c'est la Cyberspace Administration of China qui est à l'origine de cette réglementation qui entrera en vigueur dès le mois prochain. Donc leur objectif, clairement, c'est que le développement de la chaîne de blocs se fasse de façon saine et ordonnée. Je sais pas trop ce qu'ils entendent par là, mais bon bref, c'est-à-dire contrôlé par eux en gros, hein. Les contrevenants évidemment s'opposant à des amendes et des poursuites. Évidemment, vous l'aurez compris maintenant, hein, ce qui rend la chose absolument hilarante, c'est d'abord que cette mesure, elle est tout simplement inapplicable, parce que personne n'a besoin de l'autorisation de quelconque institution ou de l'État pour générer une paire de nombres, hein. Et ensuite, parce que c'est quand même énorme de commencer à voir des gouvernements ne même plus se cacher pour tenter de censurer une technologie qui a été spécifiquement conçue pour résister à la censure. Je trouve que l'ironie, elle est juste splendide. Et alors, le plus beau dans tout ça, c'est que là, en l'occurrence, vous le verrez dans les liens, c'est un article de Data News qui fait remonter cette info, ici, que j'ai trouvé, et il critique pas, hein, il se pose pas de questions sur la validité du truc, est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce que c'est applicable ou pas, il se contente de répéter comme des perroquets la dépêche Reuters, sans autre forme d'analyse, donc voilà, mais ça on peut pas, hein, c'est toujours pareil. Enfin bref, ah là là, quel bout en train, c'est chinois. Enfin bref, ça c'était la petite note d'humour pour clôturer. Alors je veux juste avant de terminer, ça c'est pas vraiment de l'actualité, c'est plus un billet que j'ai trouvé intéressant et que je voulais vous partager, hein, dans la série On vous l'avait bien dit. Je pouvais pas terminer cet épisode sans faire référence à cette bonne série de blog posts publié par Blockchain Partner, qui est un peu un des gros cabinets de conseil français sur tout ce qui est blockchain. Leur premier article est intitulé « Du blockchain washing au blockchain bashing ». Là aussi, ça doit vous rappeler des trucs, ces termes. Et cet article revient de façon lucide, je trouve, sur l'évolution des mentalités en ce qui concerne l'intérêt réel de ces fameuses blockchains permissionnées, privées et autres blockchains de consortium. Alors, ça revient aussi sur le flou artistique qui règne encore beaucoup trop souvent autour de ce qu'est et de ce qui est véritablement une blockchain, hein, définition qui est ô combien importante. Donc, je vous invite à lire cet article, je trouve qu'il est intéressant. J'ai pas lu encore les suivants, parce que c'est plus voilà, la blockchain en entreprise et tout ça, bon, voilà, m'intéresse un petit peu moins, mais voilà, je trouve intéressant que quelques années après, on finisse enfin par se rendre compte que ouais, en fait, il y a, pour être honnête, il y a blockchain et les trucs centralisés, c'est pas toujours intéressant. En gros, c'est ce qu'ils disent un petit peu de manière diplomatique, mais quand même. Au passage, tiens, tant qu'on en parle, il y a quand même un, c'est quand même relié à une actualité, c'est que Carrefour, qui, si vous vous souvenez bien, avait déjà fait défrayer la chronique l'année dernière en lançant sa son traçage du poulet avec la blockchain en France, et ben là, ils arrivent en Belgique avec leur blockchain alimentaire. Je trouve ça juste génial, blockchain, chaîne alimentaire, ça colle bien, ça sonne bien niveau marketing. Hop, on lance ça en Belgique Trends Tendance va faire un article là-dessus. La raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'ils m'ont demandé mon avis. Donc, vous devriez avoir quelques citations de ma part dans cet article. Enfin bref, ça prendra du temps, mais bon, ça va finir par rentrer. Ils vont s'en rendre compte. Et évidemment, en plus du lien vers le premier poste de Blockchain Partners, je vous ai mis aussi le lien d'Usine Digitale, qui rentre un peu plus en profondeur sur la stratégie technologique de Carrefour, notamment sur son passage de Ethereum à Hyperledger. Des noms... des gros mots que vous avez déjà entendus avant, ainsi qu'un lien vers l'article que j'avais écrit sur le sujet à l'époque où Carrefour avait annoncé ça pour la France. Donc ça, c'est les petits bonus, allez, de l'épisode. Et voilà qui conclut déjà notre épisode 19 du Proof of Cast. Alors, comme d'habitude, ben, je vous invite à me retrouver sur leproofofcast.com, à nous laisser vos questions, vos remarques, vos suggestions et vos demandes d'éclaircissement soit sur le blog, soit sur le Twitter ou le Facebook de l'émission. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver moi personnellement sur Twitter srbogast. Et puis sur Udemy aussi, où on a toujours... notre cours qui est en cours de mise à jour, effectivement, concernant le développement de smart contracts en Solidity sur Ethereum, pour lequel vous pouvez bénéficier en plus d'un petit code promo Proof of Cast qui vous donne accès au cours pour la modique somme de 10 euros. Et vous pouvez aussi me retrouver régulièrement dans le podcast Les Technos sur lestechnos.be. N'hésitez pas à aller faire un tour. Prochain épisode du Proof of Cast le 19 janvier. En attendant, évidemment, n'hésitez pas, n'attendez pas pour aller déposer vos petits ratings et vos petites reviews sur le podcast sur iTunes. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître. Et nous, on se retrouve donc le 19 janvier pour l'épisode 20 du Proof of Cast. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. À très bientôt. Au revoir.